ça rime à quoi ? Ça rime à quoi en compagnie de Jean-Michel Espitalier. Je n'avais pas remarqué encore Jean-Michel Espitalier, vos lunettes assorties à la couverture de Poésie Flammarion. Ce violet était donc volontaire.
Ouais.
C'est l'éditeur qui est attentif à ce genre de choses.
Non, en fait, on fait ça ensemble. Parce que je connais bien Yves Dimano et en fait, j'ai publié deux bouquins chez Flammarion.
Auparavant.
Je crois que c'était un était ardoise et l'autre un peu bleu, donc on continue dans ces trucs-là. J'ai toujours aimé ces couleurs-là. Quand j'étais gamin, je voulais être évêque parce que les évêques sont habillés en violet et que je trouvais ça tellement génial que je suis pas passé loin.
On n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière une couverture. C'est assez chouette de pouvoir faire exactement ce qu'on veut quand même.
C'est mieux. Ben oui, je crois que c'est pour ça que j'écris de la poésie. C'est un terrain d'extrême liberté. Alors l'extrême liberté, c'est compliqué parce qu'il faut la gérer, la liberté.
Il faut être à la hauteur.
Je sais pas s'il faut être à la hauteur, mais en tout cas, il faut trouver des limites. La liberté totale, c'est bien, mais c'est un peu vertigineux. Donc c'est aussi, il faut s'inventer des outils. Quoi. Il faut chaque fois se réinventer des outils pour chaque livre. Et enfin, s'inventer son territoire. Donc la liberté, c'est génial, mais c'est compliqué.
Et celui-ci, Salle des machines, chez Flammarion, avec ce titre digne d'un mécanicien au long cours, cela veut dire que pour vous, Jean-Michel Espitalier, la poésie avance à grand renfort de turbine, l'énergie
qui
doit pulser.
Non, en tout cas, c'est plutôt une question de machine, justement, c'est plutôt une question de mécanique. Parce que je pense que la plus belle mécanique, et celle qui est la plus accessible à tout le monde, c'est la langue, c'est le langage. La grammaire, par exemple, c'est vraiment de la mécanique, c'est des jeux de permutation, de connexion, etc.
Oui, mais on ne la maîtrise pas forcément.
Non. Non, mais justement, il faut essayer d'aller.
C'est comme les voitures que l'on sait conduire sans savoir comment on marche à moteur.
Alors ça, moi, ça me plaît beaucoup et ça m'amène à vous dire que moi, je me suis toujours considéré comme un bricoleur. Mmh. Et les bricoleurs, parce que je ne suis pas très habile, ben, les bricoleurs, en fait, ils se débrouillent avec les moyens du bord. Il va chercher au fond du jardin un vieux vélo pour essayer d'en faire un truc marrant, un peu à la Tinguely, par exemple. Et la langue, c'est pareil. C'est-à-dire que la langue, je la maîtrise bien comme tout le monde. Enfin, on maîtrise la langue parce qu'on parle.
Pas tout le monde, non. C'est une chance de bien la maîtriser.
Oui, non, c'est vrai. Mais en même temps, je ne sais pas si être écrivain, c'est être un maître de sa langue. C'est en tout cas savoir que c'est quelque chose qui fonctionne et faire fonctionner cet objet, cette dingue, avec ses propres lois. Et je crois que c'est ça le travail de l'écrivain, c'est inventer ses propres lois.
Et sur la couverture de cette Salle des machines en Poésie Flammarion, donc avec ce violet cardinal, hein, c'est la couleur de l'évêque que vous rêviez d'être enfant, Jean-Michel Espitalier.
Ben, ça n'a pas duré longtemps. Ça.
Le petit dessin, cela représente quoi? On dirait une tour de Babel assez étrange.
Non, alors
assez étrange.
C'est un dessin de Daniel Nadeau, qui est donc artiste, plasticien, et dont j'aime beaucoup l'univers. En fait, il travaille beaucoup sur la guerre, sur l'univers de la guerre. Des machines, des outils aussi. Et là, on voit avec un animal. Et c'est une série, en fait, qui est...
C'est une tortue.
C'est une tortue.
Alors, porte quoi sur sa carapace?
Qui porte un lance-flamme de la Première Guerre mondiale. Alors, il y a aussi un zeppelin. Donc, moi, j'aime assez, justement, ce côté un peu passé. Et du zeppelin, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du zeppelin, mais en tout cas, quelque part, une chute de petits chapeaux. Il y en a plein, des chapeaux. Il y a même un petit avion. Il y a deux petits avions. Et donc, ces chutes de chapeaux, en fait, ça m'évoque une liste. Et moi, j'aime beaucoup les listes. Donc, j'étais content.
C'est votre côté obsessionnel.
C'est mon côté obsessionnel. J'aimais bien, justement, ce clin d'œil graphique, en fait, à mon travail. Et parce que je me sens aussi du côté des arts plastiques. Parce que pour moi, l'écriture, c'est aussi de la plastique. Et donc, alors, dernier détail, c'est que cette série d'animaux, donc moi, j'ai pris la tortue, en fait, sont des animaux qui sont en voie de disparition.
Elle a des cornes, la tortue, quand même.
Elle a des cornes. Non, mais c'est une tortue qui existe, mais qui est en voie de disparition. Voilà. Donc, il y a aussi ce côté un peu déclinant, enfin, quelque chose qui est sur la fin. Moi, je suis, puisque vous avez évoqué mon côté obsessionnel, et je le revendique, enfin, je l'assume, moi, j'ai beaucoup d'obsessions, notamment dans l'écriture. Il y en a une qui apparaît dans mes livres et que j'ai découverte, justement, en me relisant.
C'est la question... Ça commence à quel âge, ça? La relecture? Quand on republie, qu'on recueille?
Moi, j'ai publié mon premier livre en 94, puis 95, etc. Donc, après un moment,
Après 20 ans, donc.
Du stock, ouais, on commence à regarder derrière soi et on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent, alors qu'on n'était pas tout à fait conscient. Par exemple, la question de la guerre. Je ne savais pas que je m'intéressais à la guerre à ce point. Ouais, je vois dans mes bouquins, il y a beaucoup de guerre. Et l'autre obsession, donc, c'est la question de la disparition. Quelque chose, en fait, qui semble m'obséder. Et j'ai publié en 2009, je crois, un livre sur, chez Philippe Ray sur Syd Barrett, qui s'appelle Syd Barrett, le rock et autres trucs. C'est un livre sur le rock, sur la question du fan, etc. Mais c'est aussi un livre sur Syd Barrett, donc le fondateur de Pink Floyd, qui disparaît un peu comme Rainbow. Hein, c'est-à-dire qu'il s'arrête à 22 ans, il se fait éjecter du groupe, parce que trop de drogue, trop de pression, etc. Il tient pas le coup. C'est l'anti-Jagger, ce que je dis dans le livre. Il n'est pas fait pour être une rockstar, quoi. Et donc, il disparaît, mais il meurt pas. C'est pas Joplin, c'est pas Hendrix, c'est pas, voilà. Il retourne chez sa maman, en fait, à Cambridge, banlieue terne de Cambridge, et il vit encore, il est mort en 2006. Donc, 70-2006, on fait le compte, c'est beaucoup. Donc, il y a un retour à la normale, mais une disparition de son vivant. Et moi, ça me fascine beaucoup. Je suis beaucoup fasciné par Nietzsche, par Rimbaud, etc. Enfin, par des gens qui ont disparu de leur vivant. Etienne le disait à propos de Rimbaud, il s'est amputé vivant de la poésie. Voilà, donc c'est ça. Syd Barrett, on peut dire qu'il s'est amputé vivant du rock, du rock'n'roll. Mais donc voilà, c'est la question de la disparition que parfois je signifie dans mes livres avec, ou dans mes lectures, dans mes performances, dans mes livres graphiquement avec une disparition du texte. Il y a des blanchiments de texte dans mes livres. C'est-à-dire que le texte disparaît. Et s'il disparaît, ça veut dire qu'on sait pas trop où il va, donc on peut imaginer qu'en fait il va vers l'infini. C'est-à-dire qu'il s'arrêtera jamais.
Alors avec cette salle des machines, on vous sent un peu comme ces marins en sueur qui passent leur vie à fond de cale pour entretenir la propulsion du moteur. Votre inspiration poétique, elle marche aussi ainsi, il lui faut du combustible pour durer.
Oui, alors le combustible, oui, le combustible il vient de deux canaux. Alors soit on le provoque, c'est-à-dire qu'on se dit il faut que j'avance, il faut que je trouve des choses, il faut que soit il est, alors j'aime pas trop le terme d'inspiration parce que non pas que ça n'existe pas, mais la question n'est pas là, mais c'est plutôt que ça renvoie tellement à des réalités, enfin à des espèces de fantasmes sur la poésie, le poète inspiré, etc. Enfin,
moi, tout bêtement, le souffle, hein, le fait de respirer et de pulser.
Oui,
la langue.
Oui, c'est ça, voilà. Et puis à un moment, il y a des rencontres. Moi, je sais que, alors soit je suis pas en train d'écrire un livre, ce qui est assez rare parce que j'ai toujours plusieurs chantiers. Il m'est arrivé de mettre en œuvre des textes, voire des livres, sur un mot que j'ai, je sais pas, ou je sais pas, en lisant le journal ou en lisant un bouquin ou en regardant un truc sur Internet. Paf, il y a une espèce de rencontre dont je me saisis et qui va faire démarrer une machine. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi le radar, c'est-à-dire que quand on travaille sur un livre, notamment quand on est vraiment dedans, ben, inconsciemment, en fait, le radar est ouvert là, pour ça, quoi. Donc,
lui,
en fait, on va choper des choses qui vont être moulinées pour ce projet-là. Histoire de la première fois. La première fois n'arrive qu'une seule fois, la première, qui est toujours la dernière fois que c'est la première. La deuxième fois n'arrive qu'une seule fois, la première aussi, qui est toujours la dernière fois que c'est la première fois que c'est la deuxième. C'est la première fois que j'utilise un potolé dans un poème, que j'utilise un chant d'Éric dans un poème, la première fois que je fais entrer une girafe dans un poème, que j'utilise un pneumothorax dans un poème. C'est la première fois que j'emprunte un fer à repasser pour un poème. La première fois que j'emploie le mot cabaret dans un poème. C'est la première fois que je parle d'électrothérapie dans un poème. C'est la première fois que j'écris « Le crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont tué » dans un poème. Que j'utilise un réchaud à gaz dans un poème. C'est la première fois que j'utilise une ponceuse dans un poème. Que j'écris « Au hasard Balthazar » dans un poème. Ou, pour la première fois, je ne conjugue pas le verbe « réfrigérer » dans un poème. C'est la première fois que je vis d'un godet dans un poème. C'est la première fois que je prends un pédalo dans un poème. C'est la première fois que j'emploie potron miné dans un poème. La première fois que dans un poème, je parle de Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve. C'est la première fois que je fais un gambi dans un poème. C'est la première fois que je ne conjugue pas le verbe rissoler dans un poème. C'est la première fois que j'ai besoin d'installer une lessiveuse chaude dans un poème. La première fois que j'invite Annie Cordy dans un poème. C'est la première fois que j'écris Exasod dans un poème. C'est la toute première fois que je mentionne Armance dans un poème. C'est la première fois que j'utilise une chignole dans un poème. C'est la première fois que j'utilise une prise USB dans un poème. Que j'utilise l'hôtel Plaza dans un poème. La première fois que j'utilise un retable dans un poème. Que je fais venir Saint-Pourçain-sur-Sioule dans un poème. Et dans ce poème où je fais venir Saint-Pourçain-sur-Sioule pour la deuxième fois, où j'utilise un retable pour la deuxième fois, l'hôtel Plaza pour la deuxième fois dans ce poème, une prise USB pour la deuxième fois dans ce poème, une chignole pour la deuxième fois, que pour la deuxième fois je mentionne Armance dans un poème, que dans ce poème où j'écris Exasot pour la deuxième fois, où j'invite Annie Cordy pour la deuxième fois, dans ce poème où j'ai besoin d'installer pour la deuxième fois une lessiveuse chaude, ou pour la deuxième fois je ne conjugue pas le verbe rissoler, ou je fais pour la deuxième fois un gambi, ou pour la deuxième fois dans un poème je parle de Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve, ou pour la deuxième fois j'emploie potron miné dans un poème, ou je prends un pédalo pour la deuxième fois, où je vide pour la deuxième fois un godet dans ce poème, où je ne conjugue pas pour la deuxième fois le verbe réfrigérer dans un poème, où j'écris au hasard Balthazar pour la deuxième fois, où j'utilise une ponceuse pour la deuxième fois, un réchaud à gaz pour la deuxième fois, où j'écris « Le crédit est mort, les mauvais payeurs l'ont tué » pour la deuxième fois dans ce poème, où pour la deuxième fois je parle d'électrothérapie dans un poème, où j'emploie le mot « cabaret » pour la deuxième fois, où pour la deuxième fois j'emprunte un fer à repasser dans ce poème, un pneumothorax dans ce poème pour la deuxième fois, où pour la deuxième fois je fais entrer une girafe dans ce poème, où j'utilise pour la deuxième fois un chant de Derrick, où j'utilise un pot au lait pour la deuxième fois dans ce poème, et même un chant de Derrick pour la troisième fois dans ce poème, le mot « anorak » remplace le mot « quincajou », qui remplace le mot « renoncule », qui remplace le mot « bail », qui remplace le mot « Melena », qui remplace le mot « quatre de chiffres », qui remplace le mot « chassieux », qui remplace les mots « radis rose », qui remplace le mot « rhizobium », qui remplace le mot « mélampire », qui remplace le mot « triomphe », qui remplace le mot « soudard », qui remplace le mot « flox », qui remplace le mot « libouré », qui remplace le mot « aérateur », qui remplace le mot « simaruba », qui remplace le mot « régrasse », qui remplace le mot « soupente », qui remplace le mot « permaloi », qui remplace le mot « kalachnikov », qui remplace le mot « bilarzi », qui remplace le mot « salopette », qui remplace les mots « rangement Ikea », qui remplace le mot « ronflement », qui remplace le mot « rachis », qui remplace le mot « fidéjusseur », qui remplace le mot « scheld », qui remplace le mot « bézoard », qui remplace le mot « fliche », qui remplace le mot « matriclant », qui remplace le mot « tirelet », qui remplace le mot « sandix », qui remplace le mot « dugazon », qui remplace le mot « pomerium », qui remplace le mot « zérotage », qui remplace le mot « pousse-pied », qui remplace le mot « cucule », qui remplace le mot « permafrost », qui remplace le mot « taurobol », qui remplace le mot « camaldule », qui remplace le mot « vache à eau », qui remplace le mot « Erlenmeyer », qui remplace le mot « alkifou », qui remplace le mot « anorak ».
Y a-t-il un mot que vous n'ayez pas encore osé employer dans un poème, Jean-Michel Espitalier ?
Alors, oser, je ne sais pas. Mais oui, plein. J'espère, en tout cas.
Il en reste
Il en reste. C'est vrai que je suis très... Ça, c'est un peu banal de dire ça, c'est un peu un truisme, mais c'est vrai que je suis fasciné par le langage et par les mots. Mon premier vrai livre, qui s'appelle Pont de Frappe, donc, qui est repris dans Salle des Machines, en fait, et c'est un livre très ancien, 95, mais avec des poèmes écrits sans doute... Enfin, pour l'essentiel, avant, dans les années 80. Donc, c'était mes tout débuts en poésie. Et moi, j'étais évidemment fasciné par le langage et par les mots, et notamment par les mots dont le sens m'échappait, c'est beaucoup plus intéressant. Je mélangeais, par exemple, dans un poème qui est une sorte de parodie des poèmes exotiques. Je mélangeais donc des mots exotiques de géographie, d'outils, etc., avec des noms de médicaments, par exemple, qui, moi, sonnaient ou m'évoquaient quelque chose de très exotique. On peut tirer comme conclusion qu'il faut se méfier des mots, qu'il faut se méfier du langage. Il y a des mots qui sont très jolis et qui renvoient à des réalités qui ne sont pas terribles, et vice-versa.
Ce livre, Salle des Machines, qui en fait est moins un immense paquebot que le recueil de trois petits livres publiés séparément donc entre 1995 et 2004, ce livre-là, pour vous, renoue avec le plaisir de la construction d'un nouvel opus, un peu comme ces jeux où l'on assemble tant de pièces détachées. Les pièces détachées reviennent souvent chez vous.
Oui, c'est un clin d'œil, c'est un auto-clin d'œil. Moi, je voulais les republier, mais il n'y a pas d'urgence. Et c'est Yves Dimano, mon éditeur chez Flammarion, éditeur et ami, qui m'a proposé ça. Il m'a dit que ce serait quand même pas mal de reprendre ces trois petits bouquins qui sont épuisés, qu'on ne trouve plus, etc., et qui donnent peut-être des pistes ou des indices de mon parcours, enfin de mon évolution, parce qu'on évolue tout le temps. Moi, je suis intervenu en poésie. Moi, j'ai commencé vraiment à écrire assez
tard.
Né en 57, mais j'ai commencé... Alors, j'ai écrit de la poésie, je dirais comme tout le monde, à 12 ans. Mais après, moi, je voulais écrire des romans, parce que j'étais fasciné par le roman. J'ai fait une fac de lettres, et en fac de lettres, dans les années fin 70, on était très, très roman. Enfin, en tout cas, moi, j'étais à Aix-en-Provence, et c'était très roman. Et moi, j'adorais le roman, j'ai lu beaucoup de romans. Donc, la poésie, ça me... Puis, j'ai toujours eu l'esprit de contradiction. Et quand j'étais, je me souviens, en 78-79, c'était encore l'époque... Bon, c'était déjà à l'époque punk, mais il y a encore beaucoup de babacool en fac de lettres, vous imaginez. Je résistais, par exemple, à Rimbaud, des choses comme ça, parce que je me disais, non, tout le monde lit Rimbaud, moi, je ne suis pas à la caserne, quoi. Donc, il y avait cette espèce de résistance un peu idéologique.
Et ça a lâché comment ?
Ben, ça a lâché parce que donc j'ai écrit quelques petits récits, quelque chose comme ça, qui n'étaient pas très bonnes, qui étaient même souvent sûrement très mauvaises. J'ai écrit un roman que je n'ai jamais publié, en huis clos, qui se passe à Londres, que j'ai vécu aussi. Et puis, je me suis rendu compte que ce livre, en fait, ce récit, était constitué de plans fixes, en fait. C'était une série de plans fixes. J'ai commencé à me dire, mais finalement, la poésie, c'est un exercice qui permet, contrairement au roman, alors évidemment, tout ça mériterait d'être nuancé, bien sûr. On travaille vraiment sur des objets, sur des machines, justement. C'est-à-dire qu'un poème, ou un texte, c'est quelque chose qu'on peut travailler à l'infini, mais qui n'a pas besoin de cursivité, par exemple. Même si je peux écrire un poème très long qui va raconter des choses, donc qui va aller vers sa destination. Mais le poème, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Je veux dire, il y a un travail sur la langue. Alors, c'est pareil, c'est un peu un truisme. Voilà, ce côté plan fixe. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur des petites machines. Des petites machines célibataires. Voilà, donc cette anthologie, elle dégage un peu ce terrain-là.
Vous évoquez dans ce livre-là, Salle des machines, au tout début, pour expliciter les trois textes là réunis dans ce livre Flammarion, vous évoquez ce petit livre d'enfance, Au pays bleu, qui apparemment vous a marqué tellement, Jean-Michel Espitalier, que même aujourd'hui, il vous suit. Ouais. C'était cette couverture, c'était l'histoire d'un enfant,
vous l'avez
comment
vu
ça s'appelait ? Roman d'une vie d'un enfant, voilà, quelque chose ouais, comme ouais. ça. Et c'est assez émouvant que cette chose-là de lecture
ça
enfantine
marqué,
vous suive.
Ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué ma perception. Et il y a même un texte, en fait, et je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, il y a quelques années, en fait, qui démarre quasiment comme un des textes de ce truc-là. Donc, c'est La vie rêvée, quoi. C'est-à-dire que, bon, en fait, c'est un livre qui a beaucoup marqué les gens, parce que il y a des forums sur Internet, en fait, il y a pas mal de gens qui le republient chez Belin. C'est un peu du Marcel, je ne parle pas du Marcel Proust, du Marcel Pagnol.
C'était Édouard Geoffrey.
Édouard Geoffrey, voilà. Et donc il y a vraiment un côté très suranné, très 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 ancien temps, etc. Et moi, c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué dans mon imaginaire, dans ma façon peut-être de voir le monde. Alors voilà, toute proportion gardée, parce qu'effectivement c'est très réac, c'est très mais bon, vous savez, comme disait Camus, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que je vois très bien pourquoi c'est réac, pourquoi c'est vieillot, ça a vieilli, etc. Mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça a ouvert en moi des paysages intérieurs qui sont forts, qui me poursuivent, la preuve.
Jusqu'à ce théorème d'Espitalier. Ça marche comment, le théorème d'Espitalier ?
Ben, ça marche... D'abord, ça marche bien, j'espère.
Théorème c'est une bonne formule.
Ben, en fait, si vous voulez qu'on parle du titre, moi j'avais deux titres. J'avais un titre que je trouvais beaucoup plus joli. Et celui-là qui était très dans l'autodérision, un peu dans le foutage de gueule, quoi. C'était, bon, ça me plaisait en plus, j'étais très mauvais en maths, donc c'était assez marrant. L'autre titre, c'était Le théâtre des opérations. Bon, c'est beaucoup plus joli, c'est plus élégant, mais c'est plus banal dans cette élégance, je trouvais. Donc là, il y avait quelque chose aussi de gonflé, quoi, de mettre son nom dans un titre. Moi, je trouvais ça assez marrant. Ça fait partie aussi de mon esthétique, enfin, ce côté un peu rigolard et auto-rigolard. Et donc, c'est un livre, en fait, que j'ai publié en 2003, et c'est une époque où d'ailleurs, je l'ai pas quitté, cette époque-là. Enfin, intellectuellement, en tout cas. Où je m'intéressais de plus en plus aux mathématiques, à la logique. Moi, j'ai beaucoup lu Wittgenstein, par exemple. J'ai été frappé par ça. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. De là, évidemment, je suis allé voir des livres de mathématiques, des choses comme ça, ou des biographies de mathématiciens. Enfin, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup parce que les mathématiques, c'est comme la grammaire, j'y reviens. C'est aussi des jeux de combinaisons, quoi.
C'est comme la poésie.
Et c'est comme la poésie, non, mais absolument. Et il y a aussi une grande poésie dans les mathématiques et dans les chiffres. C'est quelque chose qui est absolument génial. Enfin, moi, je suis obsédé par les chiffres, par le comptage, etc. C'est quelque chose qui me... Parce que c'est aussi un outil assez vertigineux.
À tel point que
théorème vous êtes... d'Espitalier, c'était effectivement ce rapport aux mathématiques.
Oui, à tel point, Jean-Michel Espitalier, que vous êtes capable de dire depuis combien de secondes vous êtes né.
Oui, ça, c'est mon côté un peu dingue. Oui, oui. Donc,
ça change tout le temps, c'est hyper dur à suivre.
Ça change tout le temps, c'est ça.
Là, maintenant, aujourd'hui, vous pourriez dire...
Non, si vous me laissez deux minutes, oui, mais là je pourrais pas vous le dire. Mais non, c'est intéressant. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est fou parce que ça change tout le temps. Et en même temps, il faut pas que ça s'arrête, parce que le jour où ça s'arrête, ça sera pour longtemps. Mais c'est une performance que j'ai créée à Marseille en 2006, dont la première avait été montée au théâtre des Bernardines, et une pièce qui s'appelle Autobiographie. Donc là aussi, c'est un titre d'autodérision.
Que vous avez repris à la Fondation Louis Vuitton.
Oui, c'est ça. Donc, j'ai repris plusieurs fois.
À l'automne dernier.
Oui.
C'est-à-dire 3 heures.
Alors, à la Fondation Louis Vuitton, ça voilà. Donc, c'est une installation. C'est pas de la performance. C'est pas du spectacle, hein. C'est-à-dire que moi, je suis dans un coin avec mon truc, avec un ordinateur. Il y avait un grand écran où défilait donc mon âge en seconde, qui évidemment change toute la seconde.
C'est pas mégalo, ça, quand même.
et puis les feuilles étaient imprimées. Chaque fois qu'une feuille était finie, elle était imprimée. Mais voilà, je la fais. J'aime bien aussi ces projets qui se déplacent en termes de médium. Je l'ai écrite aussi sur un mur. Là, j'ai fait une exposition l'an dernier à la Couleuvre à Saint-Ouen, et donc il y avait un mur où j'ai écrit ça en temps réel aussi. Je suis né il y a tant de milliards de secondes, etc. Mais ça ne va pas durer. Il y a toujours ce mais ça ne va pas durer. Qui quand même nous rappelle aussi, parce que c'est aussi mon autre obsession qui est le temps, ça vous l'avez bien compris, c'est quelque chose de très violent. Enfin, moi je suis très obsédé par le temps qui passe. Par le temps qui passe, c'est un... Donc ça, c'est aussi une façon peut-être d'exorciser, quoi, et en même temps de montrer à quel point c'est terrible, à quel point c'est cruel, quoi. Mais ça ne va pas durer, ça veut tout dire, quoi. Ça veut dire que, mec, la vie ne va pas durer, quoi, et qu'on a beau faire, et que, voilà, on sera rattrapé un jour. Donc c'est aussi ma petite vanité, quoi, en quelque sorte.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Et il vous faut un éditeur sacrément acharné pour publier ces histoires de temps et de chiffres et de secondes qui vont s'étendre sur des centaines de zéros et de pages. Là, c'est assez fou dans cette salle des machines chez Flammarion. On voit les chiffres et les zéros et les zéros et les zéros qui finissent donc par s'effacer. Ce thème de la disparition que vous évoquiez, pour vous, c'est très parlant, c'est très fort, c'est même très dramatique, puisque c'est le temps qui passe et la mort qui vous attend. En même temps, pour le lecteur, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous mesurez de savoir au début comment ça interagit ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on ouvre un livre et qu'on voit tout d'un coup des zéros sur une dizaine de pages jusqu'à ce que l'imprimante vous dise il n'y a plus d'encre, changez la cartouche.
Non, mais évidemment, ça se lit pas, ça peut se lire parce qu'il y a aussi des questions-réponses, mais c'est une installation, quoi. C'est plastique. Dans le théorème des Spitaliers, il y a des moutons qui sautent aussi. Il y a des doubles pages de moutons qui sautent, des moutons pour s'endormir, et qui peu à peu, donc il y en a toutes les 10-15 pages à peu près, peu à peu, donc ils grossissent, en fait, ils prennent les marges, ils se grisent, et peu à peu, ça finit dans le noir. Donc les moutons qui sautent, c'est aussi ce rapport au temps, quoi. C'est une traversée du livre, donc c'est une traversée temporelle. En fait, c'est la temporalité du livre. Elle est comme ça, et c'est aussi donc toujours cette obsession de la disparition. Les moutons qui sautent, ça sert à s'endormir. Vous savez, les médecins parlent souvent de bruit bas, de poison à bruit bas. Vous savez, les poisons à bruit bas, le tabac, par exemple, c'est du bruit bas, parce que si on fume une cigarette, on meurt pas d'un cancer du poumon tout de suite. À prendre 10, 20, 30, 40 ans. La toxine à bruit bas la plus terrible et la plus radicale, c'est le temps qui passe. Parce que quand on est, on meurt pas parce qu'il reste du temps. Mais en même temps, c'est le temps qui aura notre peau. Donc ce temps qui nous fait vivre, c'est en même temps cette chose qui nous fait vivre, c'est en même temps cette chose qui nous use et qui aura notre peau.
Et comment le poète que vous êtes, Jean-Michel Espitalier, se débat-il entre à la fois les installations sonores, enfin les performances comme ça dans des lieux, et là le livre qui, malgré tout, est fait de pages, est une chose bien ancienne, et que vous chahutez jusqu'à... il y a ce poème sur le boucher où il y a le blot, qui pareil va s'égrainer sur des pages jusqu'à venir, comme les moutons qui sautent, ronger les marges. Comment vous vous situez ? À la fois on sent très attaché au livre, traditionnelle, et en même temps à vouloir à tout prix le débat.
Moi, j'aime les deux, donc je me pose pas la question. C'est-à-dire que j'aime bien écrire des livres, j'aime bien les publier, j'aime bien avoir mes livres. Enfin, c'est quelque chose dans lequel je me sens très à l'aise. J'ai pas de problème avec ça. Et puis, j'aime bien aussi faire de la musique ou faire des performances ou faire des installations. Mais je crois que c'est une démarque, en tout cas, peut-être de ma génération. Enfin, à partir de ma génération, peut-être. Donc, qu'on peut appeler la génération pop, quoi. C'est-à-dire que
en poésie, ça existe aussi.
Oui, c'est la génération, c'est. Moi, j'ai grandi comme tout le monde, enfin, à partir de ma génération. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment les 60s, en fait, où les choses basculent. Où moi, ma culture, en fait, elle est polyvalente, polymorphe, et elle vient de partout. C'est-à-dire que moi, je suis très inspiré, bien sûr, par la littérature. Et pas seulement la poésie. Aussi, le roman, le théâtre un peu moins, mais quand même. Les essais, etc., l'histoire, enfin bon. Mais aussi par Jean-Luc Godard, par les Beatles, les Sex Pistols, Walt Disney, voilà, dans ce qu'on appelle la pop culture. Donc, si à un moment je dois faire une performance à la Fondation Vuitton, à 6 mois, c'est comme ça qu'à ce moment-là ça doit passer. Il n'y a pas d'allégeance à ça. Je fais pas mon malin en me disant tiens, je vais faire aussi des performances, etc. C'est juste qu'à un moment j'en ai besoin. Je pense que par le livre ça passe. Quelque chose qui passera pas par le livre. Et vice versa, il y a des choses sur scène qui passeront pas et qui passeront mieux dans un bouquin. Donc voilà, je me prive pas des outils qui sont à ma disposition.
Vous avez célébré la célébrité dans un livre, Jean-Michel Espitalier. C'était en 10-18. Selon vous, le poète du troisième millénaire se doit d'être célèbre ? Quel rapport il entretient avec ça ?
Je pense qu'on est tous célèbres aujourd'hui avec comme disait Andy Warhol, on a tous notre quart d'heure de célébrité. Et puis je pense que la célébrité, c'est un petit peu ce que je dis dans le bouquin, aujourd'hui elle s'effrite parce qu'elle est toujours plus difficile à atteindre. Paradoxalement, parce que tout le monde est un peu célèbre aujourd'hui. Par exemple, on prend Facebook, tout le monde aujourd'hui est un peu d'abord le rédacteur en chef de sa vie.
Oui, mais ou rien du tout, parce que ça peut être vu par 3 personnes et demie.
Non, bien sûr. Mais il y a quand même cette espèce de rapport, on sort de l'anonymat, ou en tout cas, on a l'illusion de sortir de l'anonymat, avec souvent des choses très indigentes. Ou vous allez voir sur YouTube un type qui fait tourner son gamin sur une balançoire, et vous voyez que ça a été vu 457 000 fois, c'est aberrant. Bon, il y a une part célébrité. Mais en même temps, il n'est pas célèbre, parce que pour être célèbre, il faut aussi être reconnu par les machines, de la, les machines qui rendent célèbre, la radio, la télévision, mais surtout la télévision, c'est vraiment un rapport à l'image. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, pour être célèbre, c'est plus facile qu'avant et c'est plus difficile. Je ne suis pas normand, mais je pense que c'est plus facile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de canaux. Mais c'est plus difficile parce qu'il y a plus de concurrence. Il y a la télé-réalité, tout le monde passe à la... Enfin, pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui passent à la télé. Et c'est, finalement, c'est un peu... Pour, c'est un peu parfois, c'est un peu le but du jeu, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils passent pas à la télé pour y faire quelque chose. Ils passent juste à la télé pour passer à la télé. Donc, il y a une espèce de boucle, en fait, quelque chose qui se mord la queue. The medium is the message, hein, comme disait McLuhan. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on veut juste passer à la télé. On veut juste être célèbre, ne serait-ce que quelques minutes. Donc ce rapport est très ambigu, très compliqué, à mon avis un peu pauvre, enfin un peu triste, un peu pathétique parfois. Mais voilà. Donc je ne sais pas si les poètes sont célèbres. Ce que je dis, dans ce livre, j'ai une phrase dont je vais essayer de me souvenir. De plus en plus de poètes sont de moins en moins célèbres, sauf dans le milieu de moins en moins célèbre de la poésie. Histoire de « Il est 14h36 ». L'énoncé « Il est 14h36 » n'est utilisable qu'une minute par jour. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi » n'est utilisable qu'une minute par semaine. L'énoncé « Il est 14h36 ce premier mardi du mois » n'est utilisable qu'une minute par mois. L'énoncé « Il est 14h36 ce premier mardi d'octobre » n'est utilisable qu'une minute par an. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi d'octobre » n'est utilisable que 4 minutes par an, 5 si le premier mardi d'octobre tombe le 1er, le 2 ou le 3 du mois. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi 20 décembre » n'est utilisable qu'une minute tous les 6 ans. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi 20 décembre 2005 » n'a été utilisable qu'une seule fois, une minute. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi matin » n'est jamais utilisable. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi du mois d'octobre 1997 » n'est plus utilisable. L'énoncé « Il est 14h36 ce mardi 8937 » n'est pas prêt d'être utilisable. L'énoncé « Il sera 14h36 » n'est utilisable que 1439 minutes par jour. D'où il découle que l'énoncé « Il est 14h36 » est faux 1439 minutes par jour. L'énoncé « Il sera 14h36 ce mardi » n'est utilisable que 10 079 minutes par semaine. D'où il découle que l'énoncé « Il est 14h36 ce mardi » est faux 10 079 minutes par semaine. L'énoncé « Il sera 14h36 ce premier mardi du mois » n'est utilisable que 44 639 minutes les mois de 31 jours, 43 199 minutes les mois de 30 jours, 40 319 minutes les mois de février, 41 759 minutes les mois de février des années bissextiles. D'où il découle que l'énoncé « Il est 14h36 ce premier mardi du mois » est faux 44 639 minutes les mois de 31 jours, 43 199 minutes les mois de 30 jours, 40 319 minutes les mois de février, 41 759 minutes les mois de février des années bissextiles. L'énoncé « Il sera 14h36 ce premier mardi d'octobre » n'est utilisable que 525 599 minutes par an. D'où il découle que l'énoncé « Il est 14h36 le 1er mardi d'octobre » est faux 525 599 minutes par an. L'énoncé « Il sera 14h36 ce mardi 20 décembre 2005 » ne fut utilisable que jusqu'au 20 décembre 2005 à 14h35. D'où il découle que l'énoncé « Il est 14h36 ce mardi 20 décembre 2005 » est définitivement faux depuis le 20 décembre 2005 à 14h37.
Fermez la parenthèse. C'est une histoire d'amour avec l'horloge parlante, Jean-Michel Espitalier.
Oui, c'est un peu ça. C'est ouais, toujours cette obsession du temps et comment l'interroger, comment rentrer dans cette mécanique aussi. C'est aussi une mécanique, le temps.
Ça tourne à la folie, là, quand même.
Oui. Un peu, oui, mais c'est vrai que le temps me rend fou parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et voyez, on peut construire une histoire, un récit avec ça.
Tout est vrai, là.
Tout est vrai.
Salle des machines de Jean-Michel Espitalier est publié chez Flammarion. Ça rime à quoi, 24h sur 24 sur franceculture.fr pour écouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi, Jean-Richard Dufour, Michel Mestre, Henri Leblanc, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture. Place au théâtre avec Joël Gaillot.